OK, on va continuer la première leçon qu'on avait commencée la semaine dernière, qui est glorifier Dieu dans votre corps, qui était une introduction. Alors, ce qu'on avait regardé un petit peu la semaine dernière, pour avoir la question de le reviser rapidement, on avait vu que la société canadienne souffre d'un grave problème d'obésité et que l'Association médicale canadienne avait étudié dans un document, l'avait présenté au gouvernement, pour démontrer l'ampleur de tout cela. Et dans le but, dans le fond, ce n'est pas à nous à régler les problèmes de la société, mais dans le fond, c'est de regarder comment les problèmes de la société finissent par se ramasser dans les églises aussi. Alors, prendre soin de notre corps, on parle souvent de sanctification, et quand on parle de sanctification, des fois, on oublie le côté de notre corps. Pourtant, les Écritures ont beaucoup d'enseignements à ce sujet-là. Alors, on avait fait quelques observations préliminaires. Donc, on avait vu qu'il y avait comme deux extrêmes dans la société actuellement. Soit, la première extrême, c'est l'adoration de notre corps. Autrement dit, les gens, par toutes sortes de moyens, soit des chirurgies esthétiques, soit des soins extrêmes de leur corps, des transformations de toutes sortes. Alors, c'est comme l'adoration de ton corps. Ou tu l'aimes tellement que tu le mets quasiment comme un dieu, ou l'autre, c'est vraiment l'opposé complet. On avait vu que dans les deux, dans le problème d'adoration de notre corps, il y avait comme deux problèmes qu'on voit de plus en plus dans la société de nos jours. L'anorexie, qui est un désordre alimentaire caractérisé par une aversion vers la nourriture et une obsession de la perte de poids et qui se manifeste par la privation excessive et l'exercice physique exagéré. Donc, l'anorexie. Et on a la boulimie, quelqu'un qui mange jusqu'à s'en faire vomir. Et on pense, des fois, moi, je me souviens d'avoir déjà entendu des émissions à télévision sur ce sujet-là. Et souvent, on en a dans notre entourage. On ne sait même pas. C'est que c'est les gens qui vivent ces problèmes-là, en général, ils vivent ça en secret. Très souvent. Alors, ça ne veut pas dire qu'à cause qu'on l'a jamais vu, que ce n'est pas très, très proche de nous autres. Alors, dans Romains 1, 25, ça dit: eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. La deuxième extrême, c'est la négligence complète du corps. Et la négligence complète du corps peut se manifester de différentes façons. Soit une très, très mauvaise alimentation, et là-dessus, on est tous plus ou moins coupables. L'abus d'alcool et de drogue, je ne dis pas que dans les églises, il y en a énormément, mais ça peut arriver. La négligence de son apparence physique, la malpropreté, etc. Donc, un qui met son corps quasiment comme un dieu, l'autre qui le néglige complètement et qui le maltraite, comme on pourrait dire. Donc, on avait vu, comme deuxième point, la crédibilité du messager, ceux qui ont eu la chance d'aller voir un petit peu qui est le pasteur Albert N. Martin, qui a écrit le livre que j'utilise pour bâtir ces sermons-là. C'est Glorifying God in Your Body. Autrement dit, glorifier Dieu dans votre corps. Et il a fait un travail vraiment fantastique. Mais à quelque part, à l'intérieur de son livre, il ouvre des parenthèses sur des sujets que lui ne développe pas, mais qui dit qu'on devrait y aller. Fait que moi, j'ai décidé que je vais faire ça plus large que le livre. Alors, il incluait, par exemple, la sexualité et d'autres choses semblables, le jeûne. Et à quelque part, on va prendre le contenu de son livre, on va le présenter sous forme de sermon, mais on va élargir un petit peu pour inclure tous les aspects de la sanctification, de la glorification du corps. Alors, on va regarder tout ça. Alors, on avait vu que c'est un homme qui était, ceux qui ont eu la chance de l'écouter ou de regarder un petit peu sur Internet, quel genre de bonhomme que c'est, vous allez voir que si vous l'écoutez, vous allez vous apercevoir que c'est un homme qui est passionné, qui est un homme qui prêche avec beaucoup d'autorité, qui prêche, il est rendu à 80 ans maintenant. Alors, c'est un homme qui écrit, beaucoup écrit, beaucoup enseigné dans les séminaires bibliques. Alors, c'est un homme très compétent. Il avait commencé son livre par nous rappeler deux choses qu'il nous dit qu'il faut garder continuellement à l'esprit si on veut étudier un sujet comme glorifier Dieu dans votre corps. Et lui, il a pris l'analogie des appuis-livres. Il dit, ta vie chrétienne, c'est comme si ça serait toutes des livres, et les livres sont à l'intérieur, c'est différents aspects de ta vie. Si tu prends des livres d'un pouce d'épais, tu les mets sur une table, ils vont tomber. Il dit, si tu ne veux pas qu'ils tombent, ça prend deux appuis-livres. Alors, il utilise l'analogie des deux appuis-livres pour dire que si tu veux glorifier Dieu dans ton corps, il faut que tu gardes ces deux choses-là à l'esprit en tout temps, dans le développement de ta marche pour obtenir, pour te rendre à l'objectif. Donc, le premier, c'est vraiment... c'est la justice de Christ. Autrement dit, tu ne dois pas partir à essayer de glorifier Dieu dans ton corps en disant « c'est par mes efforts, c'est par « me, myself and I » que j'y arrive ». Il faut que tu te rendes compte que si tu es capable de faire cela, de glorifier Dieu dans ton corps, c'est parce qu'il faut que tu te bases sur l'œuvre achevée de Jésus-Christ qui s'appelle la justice de Christ. Autrement dit, la justice de Christ, c'est l'imputation, la mise sur notre compte de ce que Christ a fait. Donc, c'est un des appuis-livres, il faut que tu t'en souviennes continuellement. Et ça comprend deux aspects. Très important qu'on les assimile, ces deux aspects-là, de la justice de Christ. Donc, l'imputation, ça veut dire les mérites de Jésus-Christ qui sont mis sur notre compte. C'est comme si on avait un compte à Dieu, on a un paquet de dettes, et c'est Christ qui vient payer nos dettes, et c'est Christ qui vient accomplir ce que Dieu nous commande de faire. Alors, on va regarder les deux aspects. En théologie, quand vous regardez des livres de théologie, souvent on va appeler ça l'obéissance active et l'obéissance passive. L'obéissance active, ça veut dire que Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur cette terre, il était à la fois homme et Dieu, mais dans son aspect homme. L'obéissance active, ça veut dire qu'il a toujours obéi à Dieu, à tous les commandements, au décalogue, aux 10 commandements, de façon parfaite tout au cours de sa vie. Et la Bible nous dit que quand on croit en Jésus, le Père accepte notre foi en Jésus comme si nous avions fait cela personnellement. Imaginez, c'est beaucoup, c'est beaucoup au-delà de ce qu'on est capable d'imaginer. C'est énorme. Dieu nous voit. C'est pour ça que des fois, il ne faut pas trop s'énerver. Ben, je ne dis pas qu'il faut négliger l'aspect de la sanctification, mais il faut toujours plus ramener nos idées sur l'aspect objectif que sur l'aspect subjectif du salut. L'aspect objectif, c'est Christ qui a tout fait pour nous, à la fois payer nos péchés et à la fois accomplir ce que Dieu exigeait de chacun d'entre nous. Alors, ça, c'est l'obéissance active. Donc, Christ n'a jamais manqué dans sa vie chrétienne comme homme, ni il n'a pas eu une seule fois péché, ni en pensée, ni en parole, ni en action, ni en omission, ni en quelque faute que ce soit. Donc, ça, c'est l'obéissance active, mise sur ton compte à partir du moment où tu crois en lui et que lui, le Père te considère, à cause de la foi en Jésus-Christ, comme ayant accompli la loi à la perfection. Quand on pense à ça, quand on regarde notre passé, et quand on regarde même notre présent, on est loin d'obéir à la loi à la perfection, même après notre salut. Mais ça, Dieu nous le met sur notre compte à cause de Christ. L'obéissance passive, ça se passe plus sur la croix. C'est que le Seigneur Jésus a accepté de subir volontairement le châtiment qui aurait dû être le nôtre personnellement et additionné de tous les élus du monde, de toutes les époques, de la terre, il a accepté de subir l'équivalent de ce que nous aurions dû subir en enfer, lui a accepté de le subir à notre place sur la croix, en une courte période de temps. La douleur qui est impliquée là-dedans, ça dépasse de beaucoup notre capacité de compréhension. Alors, toute l'œuvre de Christ, que ce soit l'obéissance active ou l'obéissance passive, c'est vrai que ça dépasse de beaucoup notre capacité de compréhension de la grandeur de l'œuvre de Jésus-Christ. Alors, ça, il faut que tu gardes ça sur un côté. Autrement dit, si je suis capable de glorifier mon corps, c'est pas parce que je suis bon puis je fais des efforts personnels, puis moi, Jésus, je l'ai l'affaire. Si tu te bases là-dessus, tu n'iras pas loin. Premièrement, tu vas te tromper parce que c'est pas à cause de toi, de tes mérites, de tes actions que tu vas pouvoir y arriver. C'est à cause de Christ qui va te donner, à cause du fait que tu es né de nouveau, qui t'a donné l'Esprit, que tu vas pouvoir... arriver à bon port avec cette affaire-là. Donc, quand on regarde quelques versets qui nous parlent de ces vérités-là, on a par exemple Romains 5, versets 18 et 19. « Ainsi donc, comme un seul péché a valu la condamnation à tous les hommes, de même, par une seule justice, tous les hommes recevront la justification qui donne la vie. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, plusieurs ont été rendus pécheurs, ainsi, par l'obéissance d'un seul, plusieurs seront rendus justes. » Bien entendu, on parle de Adam. À cause de lui, on est tous devenus des pécheurs. Puis, à cause de Christ, à cause d'un seul acte de justice d'un seul homme, tous les élus de tous les temps vont être reconnus comme étant justes. Galates, chapitre 3, verset 13. « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, quand il a été fait malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois. » Donc, Jésus, quand il était mis sur la croix, ça dit que Dieu maudissait l'homme qui était là, mais pas lui personnellement, nous qui étions en lui. Parce que ça dit bien, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi quand il a été fait malédiction pour nous. Alors, il a été fait malédiction sur la croix à cause de nous. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 20 et 21. Vous l'avez déjà dit dimanche. Gardez ce verset-là en mémoire quand vous voulez évangéliser, parce que c'est un petit verset court, mais qui dit tout. Alors, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20 et 21, qui nous dit, « Nous faisons donc la fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, et nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Car celui qui n'a point connu le péché, il l'a traité en pécheur pour nous, afin que nous, nous devenions justes de la justice de Dieu en lui. » Alors, tu as vraiment les deux aspects de tout le salut qui est dans le verset 21 de 2 Corinthiens, chapitre 5. On a aussi 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 10 à 14, qui nous rappelle que notre fondation... Peu importe ce qu'on veut faire, notre fondation, si on veut construire quelque chose, notre fondation, ça doit être la personne de Christ. Alors, ça dit dans le verset 10, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre édifie dessus. Or, que chacun considère comment il édifie dessus. Car nul ne peut poser un autre fondement que celui qui est déjà posé, lequel est Jésus le Christ. Que si sur ce fondement, quelqu'un édifie de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce que c'est par le feu que se fait la révélation. Et ce qu'est l'œuvre de chacun, le feu l'éprouvera. Si l'œuvre que quelqu'un édifié dessus demeure, il recevra un salaire. » Autrement dit, tu es en train de te dire que les bonnes œuvres que tu vas faire sur la terre, si tu t'appuies sur Christ et non pas sur toi, si tes intentions étaient pures, Dieu va te récompenser pour ce que tu as fait. C'est assez extraordinaire quand même. Non seulement il nous libère de nos péchés, il nous donne la vie éternelle, mais en plus, il nous récompense pour le bien qu'on fait sur la terre. C'est extraordinaire. Alors, le pasteur Martin affirme que nous devrons constamment nous rappeler cette vérité dans notre quête de la justification du corps. Alors, ceux qui connaissent le grand pasteur anglais, John Newton, qui a écrit l'hymne « Amazing Grace », tout le monde connaît « Amazing Grace », c'est un marin qui a été sauvé par le Seigneur, mais quelque part... Il est intéressant de noter ce qu'il a dit avant de mourir. J'aime beaucoup les phrases de chrétiens avant de mourir, parce que ça dénote comme un résumé de leur vie, leur façon de voir les choses. Alors, voici ce pasteur anglais-là qui est mort sur son lit de mort, alors qu'il avait 82 ans. Voici ce qu'il a dit. « Ma mémoire est presque disparue, mais je me souviens de deux choses. » Que je suis un grand pécheur et que le Christ est un grand sauveur. Il se souvenait de l'essentiel, n'est-ce pas? Alors, l'appui-livre numéro 2, c'est vraiment la puissance du Saint-Esprit. Autrement dit, ça c'est un bout pour tenir tes livres debout, pour tenir l'autre bout, c'est de te souvenir que si tu as de la victoire et si tu réussis, mais si tu t'appuies sur le Saint-Esprit, c'est sûr que tu vas avoir des victoires dans ce domaine-là, comme dans tout autre domaine, parce que les Écritures disent que tu vas en avoir. Alors, la puissance du Saint-Esprit. Alors, il est probable que les leçons qu'on va étudier au cours des prochaines semaines viennent révéler des péchés qui sont dans nos vies, compte tenu de la manière dont on traite notre corps, par rapport à ce que les Écritures nous commandent. Alors, si nous sommes de véritables croyants, nous voudrons que tout notre corps, de tout notre cœur, que notre corps vaincre ces péchés-là. Mais nous n'y arriverons jamais tout seul. Ça, c'est une des choses à retenir dans la vie chrétienne. Peu importe ce que tu veux faire, te rendre compte que sans Jésus, tu n'es pas capable de... Le Seigneur l'a dit, hein? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et bien sûr, ici, on voit qu'il nous a dit qu'avant de partir, qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Et quand on veut vaincre un péché, quel qu'il soit, il faut s'appuyer sur la puissance du Saint-Esprit que le Seigneur nous a donné, qui habite en nous. Alors ça, c'est bien important qu'on se souvienne de ça si on veut avoir la victoire. Alors, la motivation qu'on va se dire, bien, à partir de maintenant, je change telle affaire. Il ne faut pas que tu dises, à partir de maintenant, je change. À partir de maintenant, avec l'aide du Saint-Esprit, je vais changer en collaborant à tel péché. Si vous faites ça, vous allez avoir des victoires nombreuses et éclatantes même. Alors, Ézéchiel 36, versets 26 et 27. Quand le Seigneur nous parle de la promesse de la nouvelle alliance, il dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit et je ferai que vous marchiez dans mes statuts et que vous gardiez mes ordonnances pour les pratiquer. » Tout le verset dit que c'est à cause qu'il va nous donner son esprit qu'on va pouvoir le faire. Jean 14, 23, Jésus lui répondit et lui dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 14 et 15, « Car la charité de Christ nous presse, étant persuadés que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et il est mort pour nous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Psaume 119, versets 127 et 128, « C'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or, même que l'or fin. C'est pourquoi j'estime droit tous tes commandements et je hais toute voie de mensonge. » Voyez-vous, Jean 15, versets 1 à 5, ça, Jésus nous rappelle les grandes vérités qu'on a besoin de garder à l'esprit. « Je suis le cep, le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Il retranche tout serment en moi qui ne porte point de fruit, et il émonde tout serment qui porte du fruit, afin qu'il porte encore plus de fruits. Vous êtes déjà nets à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et moi, je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut porter du fruit de lui-même s'il ne demeure au cep, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Éphésiens chapitre 1, versets 3 et 4. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes par Christ, selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui par la charité. » Quand on regarde, il nous a sauvés pour qu'on se sanctifie. Et la sanctification fait partie de l'ensemble de la sanctification. Alors, Philippiens, chapitre 4, verset 13, « Je puis tout par Christ qui me fortifie. » Alors, on doit désapprendre la confiance en la créature ou en nous-mêmes et cultiver notre conscience, notre dépendance consciente envers le Saint-Esprit pour la performance de tous nos devoirs chrétiens. Peu importe le devoir chrétien que tu as à faire, pas te fier sur toi, te fier sur l'Esprit pour t'aider, te donner la force de faire ce qu'il faut faire. Alors, comme conclusion, le combat dans lequel nous nous engageons n'a pas pour but de promouvoir un esprit pharisaïque, un esprit d'orgueil et de confiance aveugle en soi. Le combat sera plutôt mené par l'obéissance à l'Évangile, la dépendance au Saint-Esprit et aura pour fin ultime la gloire de Dieu. Pourquoi on veut changer quelque chose dans nos vies si on se rend compte qu'on pêche par le corps? Pour la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'il faut le faire. Sinon, on a la bonne motivation. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Ça, c'est un beau verset par rapport à ce qu'on est en train d'étudier. « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, ou que vous fassiez quelque autre chose. » Ça comprend n'importe quoi, autrement dit. « Faites tout pour la gloire de Dieu. » Notre corps a un principe qu'il faut retenir aussi. On a vu les deux appuis-livres, mais un autre principe que les Écritures nous apprennent. Pourquoi on se doit de prendre un soin jaloux de notre corps? C'est pour la simple raison que les Écritures nous disent qu'il ne nous appartient pas. On entend souvent aujourd'hui des affaires, des personnes qui se font avorter, puis disent « Oh ben là, moi j'ai bien le droit de faire ce que je veux avec mon corps. » C'est pas ton corps. C'est le corps que Dieu t'a donné et tu vas avoir des comptes à rendre sur la façon dont tu l'as utilisé durant ta vie terrestre, que tu sois païen ou que tu sois chrétien. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 et 20. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous a été donné de Dieu et que vous n'êtes point à vous-même? » Car vous avez été acheté à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et en votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, on ne peut pas dire, je vais le traiter comme je veux, c'est à moi. Non, il n'est pas à toi. Alors, quand quelqu'un nous prête son auto, on ne conduit pas de la même façon que quand c'est le nôtre. On dit, si j'ai un accident, c'est mon auto. Mais quand on conduit le char d'un autre, surtout si c'est un char un peu luxueux, n'est-ce pas qu'on fait attention, hein? Parce qu'on se dit, c'est pas moi. Mais là, c'est la même chose. Notre corps, il ne nous appartient pas. Il appartient au Seigneur. Et on va avoir des comptes à rendre sur la manière dont on l'a traité. On est des administrateurs, comme les Écritures nous disent si bien. 1 Corinthiens, chapitre 4, versets 1 et 2. « Ainsi que chacun de nous s'estime comme serviteur de Christ et administrateur des mystères de Dieu. » Au reste, ce que l'on requiert dans les administrateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Alors, on va avoir des comptes à rendre sur la manière dont on a utilisé les dons du Seigneur. Et ça comprend notre corps, nos talents et nos opportunités aussi. Parce que quand le Seigneur place devant nous une opportunité pour le servir ou pour parler de lui et qu'on la rate, on manque le bateau là aussi. Alors, bons passages, c'est la parole. Il y en a deux, mais il faut juste en manquer un parce qu'ils sont quand même assez longs. Je vais quand même vous lire celle de la parabole des talents dans Matthieu 25, versets 14 à 30. Car il en est comme d'un homme qui, s'en allant en voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Et à l'un, il donna 5 talents, et à l'autre, il en donna 1, à chacun selon ses forces, et il partit aussitôt. Or, celui qui avait reçu 5 talents s'en alla et en trafiqua, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui en avait reçu 2 en gagna aussi 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un s'en alla et creusa dans la terre et y cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint, et il leur fit rendre compte. Alors celui qui avait reçu 5 talents vint et présenta 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, en voici 5 autres que j'ai gagnés de plus. » Et son maître lui dit, « Cela est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. Et celui qui avait reçu deux talents vint et dit, Seigneur, tu m'avais remis deux talents, et voici deux autres que j'ai gagnés de plus. Son maître lui dit, cela est bon, eh bien, bon et fidèle serviteur, car tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. Mais celui qui n'avait reçu qu'un talent vint et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui recueille où tu n'as pas répandu. C'est pourquoi, te craignant, je suis allé et j'ai caché ton talent dans la terre. Voici donc ce qui est à toi. Et son maître lui répondit, méchant et paresseux serviteur, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je recueille où je n'ai pas répandu. Il te fallait donc donner mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec l'intérêt. Ôtez-lui donc le talent et le donnez à celui qui a les 10 talents. Car à celui qui a, on donnera et il aura encore davantage. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Jetez donc le serviteur inutile dans les ténèbres du dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents. C'est-tu sévère, ça? Très sévère. Il dit que quand il te donne des talents, il faut que tu les fasses fructifier. Et celui qui n'avait rien qu'un, il dit, je vais aller le serrer, je vais le mettre dans la terre, comme ça, je vais pouvoir y redonner quand il va revenir. C'est ça qu'il a fait. Et vous, qu'est-ce qu'il a dit? Méchant serviteur. C'est à réfléchir. Et là-dedans, bien sûr, on a dit tantôt que ça représentait nos corps, nos talents et nos opportunités. Il y a tellement d'affaires comprises là-dedans. Là, et le Seigneur va nous faire rendre des comptes sur toutes ces choses-là dans les moindres détails. À quelque part, c'est quand on va les avoir utilisés correctement qu'on va recevoir des récompenses et qu'il va nous dire bon et fidèle serviteur. J'espère pour chacun d'entre nous qu'on n'entendra jamais la parole jetez-le donc le serviteur inutile dans les ténèbres du dehors, là où seront les pleurs et les grincements de dents. C'est sévère. Jésus est bon, Jésus est généreux, Jésus est sévère aussi. En même temps. Alors, on pourrait aller regarder aussi la parabole des mines dans Luc 19, versets 11 à 27. Bon, il n'y aura pas ce matin, aujourd'hui, parce que c'est quand même assez long. Mais dans le fond, c'est pour dire que les Écritures nous parlent beaucoup que ce que Dieu nous a donné, il va nous en demander des comptes. Et il nous rappelle que le corps ne nous appartient pas et qu'on va lui rendre des comptes sur la façon dont il l'a utilisé. Puis, il n'y a pas personne qui peut dire, ben moi, j'ai aucun problème de pécher avec mon corps. S'il vous plaît, allez dire ça à un autre qu'à moi, là. S'il vous plaît. Alors, au cours des prochaines semaines, on va donc examiner en détail les enseignements des Écritures qui ont un rapport avec la sanctification du corps. On va regarder plusieurs aspects. L'alimentation, l'exercice physique, les divers facteurs de santé physique et mentale, et aussi la sexualité. Alors, on va en couvrir assez large, mais à quelque part, on est tous responsables devant Dieu pour toutes ces choses-là. Alors, on a besoin, moi, je vais vous dire, ça fait quand même 40 ans bientôt que je vais être chrétien, puis je n'ai pas entendu beaucoup de sermons sur la sanctification du corps. Même que j'irais même jusqu'à dire, je n'ai même pas entendu un. Alors, c'est quelque chose qu'on ne prêche pas souvent dessus, mais qu'on devrait. Parce que à cause des problèmes qui règnent dans la société, et qu'il ne faut pas penser que les problèmes qui règnent dans la société finissent pas par s'infiltrer dans les églises et que nous, on les pratique aussi. Ça nous influence grandement. Alors, les Écritures vont nous rappeler que... Alors, deux applications. Soyons conscients que les valeurs du monde, dans leurs abus de toutes sortes, les idolâtries du corps, la mode, ont une influence énorme sur nous et que nous avons le devoir et le commandement du Seigneur de ne pas vivre selon le monde. Romains 12, versets 1 et 2. « Je vous exhorte donc, frères, par les miséricordes de Dieu, à présenter vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre culte raisonnable, et ne vous conformez pas à ce siècle-ci, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement pour que vous fassiez l'épreuve de ce qui est la volonté de Dieu, de ce qui est bon, agréable et parfait. Deuxièmement, implorons le Seigneur de nous montrer de nous montrer ce qui ne va pas dans notre compréhension et dans notre utilisation de notre corps pour une vie sanctifiée. Voyez-vous, dans Romains 6, 12, ça dit « Que le péché ne règne donc point en vos corps mortels pour lui obéir dans les convoitises de celui-ci. » 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10 « Car il nous faut tous être manifestés devant le tribunal du Christ afin que chacun reçoive selon ce qu'il aura fait par le moyen du corps, soit bien, soit mal. » 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 23 et 24, et on termine là-dessus. « Or que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout ce qui est en vous, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et il le fera. Que le Seigneur Jésus-Christ soit béni, loué et adoré pour ses innombrables grâces. Amen. » Amen.